Amis de Radio Silence, bonjour. Vous écoutez Flash sur le monde par Elise Mbok. Ça fait, oula, je sais plus, un petit moment que vous ne m'avez pas entendu, tout simplement parce que ici en Afrique, c'est le paludisme et éventuellement la typhoïde, alors qu'en Europe, c'est le Covid. Alors, c'est stupéfiant parce que les crises de paludisme ici sont chroniques, sont fréquentes, les gens souffrent, ils sont habitués, hein, moi je le suis moi. Et c'est. Comment je vais dire? Ça fait. Un moment, pendant longtemps, on a fait des conférences. L'OMS a fait beaucoup de choses pour contenir le paludisme en Afrique et la malaria, mais on ne peut pas, tout simplement parce que il y a un problème environnemental terrible. Et sans ce qu'on appelle le développement urbain, il est très difficile de contenir le paludisme. Et donc l'OMS a certainement baissé les bras. On n'en parle plus du paludisme. La dernière fois, c'est Paris qui a voulu, enfin qui a essayé d'en parler. Et bon, ça peut pas donner, ça peut pas donner. C'est très complexe. C'est pas l'écosystème, on va dire comme ça. C'est microclimat, mais qui fait que l'Afrique ne peut pas ne pas avoir de malaria. Il y a trop de rigoles bouchées. Il y a trop de poubelles pas vidé, il y a trop d'insalubrité, il y a trop de poussière, il y a le climat lui-même qui est assez compliqué, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc, paludisme, j'en reviens, c'est pas le Covid, c'est pas du tout le Covid. Sinon, c'est pas de ça que, enfin, c'est pas de ça dont on va parler, parce que le Covid, hein, le paludisme, hein, voilà, ce sont des maladies, on va vivre avec. Mais j'ai reçu un éditorial de Bernard Lugan. On va parler de l'Algérie. Hein, et quand on parle de l'Algérie, c'est aussi de l'Afrique tout court, donc de ce paludisme. Mais sauf qu'en Algérie, il n'y a pas de paludisme, pourtant c'est l'Afrique, parce que justement, il y a un développement urbain. L'Algérie, Bernard Lugan de l'Afrique réelle fait vraiment un édito très intéressant qui va ouvrir un débat. En l'occurrence, je synthétise hein, l'édito. On ne parle pas souvent de l'Afrique, on va en parler là parce qu'on est toujours dans l'Amérique. Il dit depuis le 16 février 2019, un mouvement de protestation contre le cinquième mandat du président Bouteflika a donc secoué l'Algérie. Et ce mouvement s'est transformé en une lame de fond contre le système en place depuis 1962, c'est-à-dire depuis après les indépendances. Le système donc représenté par les généraux, en gros, hein. Et heureusement pour l'Algérie, le Covid a interrompu le processus, mais les données sont là. Voilà, et là, ça commence à être intéressant. Les données sont là. Il y a une baisse de la production pétrolière depuis 2018 en Algérie. Donc, on est à 70 000 barils jour. Il y a une baisse du prix du pétrole et un épuisement des nappes, sans que, vous voyez, d'habitude, on trouve toujours un gisement quelque part. Il n'y en a plus. C'est la même chose pour le gaz. Les exportations, comme pour le pétrole, sont en baisse. Ce qui fait que pour un pays comme l'Algérie, qui, comment on va dire, qui a 95, dont les exportations sont à 95-98% composées d'hydrocarbures, bah, plutôt basées sur les hydrocarbures, pour des recettes budgétaires représentant 75%, l'Algérie donc nourrit son peuple, l'habille, le soigne, équipe le pays avec cette rente des hydrocarbures. Bien, cette rente s'est effondrée et l'Algérie se retrouve avec beaucoup de problèmes parce que la population En janvier 2021, c'est toujours Bernard Lugan qui parle. En janvier 2021, la population algérienne serait de 44 millions d'habitants et elle augmente de 2,15% par an, ce qui fait qu'il y a quelque chose comme plus de 900 000 habitants de plus chaque année. Donc, voilà les données du problème. Ce serait vraiment je veux dire, une étude de cas extraordinaire pour des étudiants en sciences politiques. Parce que, après, ça ouvre sur les questions fondamentales. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dénoncé l'héritage colonial comme étant ce qui fait que l'Algérie ait peut-être des problèmes, à part des problèmes des pays. Comme ceux du Sahel, enfin comme ceux du sud du Sahel, comme on va dire, ont des problèmes. Cet argument, au vu de l'éditorial et des données rapportées par Bernard Lugan, semble être battu en brèche, ça ne marche pas. On a eu la question de la critique de la géopolitique très exploiteuse des ressources de gaz, de pétrole et tout ce que vous savez, minéraux, etc. Qui aussi là présente des limites parce que la géopolitique aujourd'hui n'est plus vraiment basée sur l'exploitation des ressources premières. Il y a un peu plus que cela dans la géopolitique. C'est avant que la géopolitique était concentrée sur le pétrole. Aujourd'hui, elle n'est plus. Donc, c'est un argument aussi qui tombe à l'eau. Et puis on a un argument, un autre argument, un troisième argument qui est celui du franc à la monnaie qui tombe à l'eau parce que l'Algérie, elle n'a pas le franc CFA, elle a le dinar. Et comment se fait-il donc qu'elle a des problèmes que la zone CFA, vous savez, tout ce qui s'est dit sur le CFA, devait rencontrer? Alors, une fois qu'on a donc tombé tout cela, on arrive à la question de la gouvernance, forcément, donc, qui est soulignée d'ailleurs par le système qui est pris en otage depuis 1962 il faut le dire, l'Algérie en particulier, c'est la République des généraux. Donc, des généraux qui s'enrichissent, on ne sait pas comment, certainement pas la manne pétrolière et ou les hydrocarbures et la population qui semble souffrir. Peut-être qu'il y a des effets. Alors, quand on dit gouvernance, on va penser à la redistribution. Bon, j'aime pas trop ce mot redistribution parce que elle tente à dire que les ressources sont extensibles à l'infini et que on peut faire autant, pas d'enfants, la population peut augmenter autant qu'elle veut et les ressources seront toujours là pour satisfaire à cette augmentation-là. Ça s'est tendu quand même. Bon, ben maintenant, on peut pas trop critiquer l'augmentation de la population non plus en soi. Quoique elle ait des fondements, on va dire quoi, anthropologiques, puisqu'on parle du lit du pauvre qui est fécond, et que peut-être en entretenant la pauvreté, on entretient comme ça cette surpopulation que par la suite on est incapable de satisfaire, dont on ne peut pas garantir très bien les conditions d'une vie, j'allais dire tout simplement pas sereine. Mais correct. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, parce que c'est un biais qui n'est pas là en transversal comme ça et rapidement, c'est cette histoire de surpopulation. Alors, quelle est la notion, quelle est la réalité? La surpopulation dans l'économie d'un pays, c'est une bonne question. C'est une bonne question, d'autant que une fois qu'on a pas résolu le problème qui est souligné par Bernard Lugan, à savoir que l'économie, la rente n'a aucun avenir, qu'on n'a pas résolu le fait que les pays africains manquent de spécialisation. Et je me souviens là ici de quelqu'un qui avait fait une comparaison entre la Malaisie et la Côte d'Ivoire sur l'EVA, en disant que la Malaisie a tellement bien négocié son développement que le cours de l'EVA, parce que la Malaisie a les mêmes conditions climatiques que la Côte d'Ivoire, produit à peu près les mêmes choses, mais le cours de l'EVA se négocie aujourd'hui à Kuala Lumpur Alors que le cacao, le cours du cacao, devrait se négocier en Côte d'Ivoire. Non, il se négocie, je crois, quelque part vers Londres. Et puis le diamant aussi, on peut prendre l'exemple du diamant qui se négocie à Anvers alors qu'il est produit en Afrique du Sud. Donc il y a un manque de spécialisation des pays africains et du coup on ne peut plus voilà, aussi incriminer ce qu'on appelait la division internationale du travail qui assignait les uns à la production et les autres à la consommation. Non, l'exemple asiatique montre très bien comment la Corée a pu du Sud et tous ces pays asiatiques qui étaient des consommateurs sont devenus des producteurs. Donc l'Afrique a des sérieux problèmes et une grande réflexion à faire, mais qu'elle ne veut jamais confronter. Alors, confrontons celle qui fait très, très, très problème, c'est la surpopulation de l'Afrique. La surpopulation de l'Afrique, c'est-à-dire plutôt l'Afrique n'est pas vraiment surpeuplée, il y a encore la place. Enfin, je ne connais pas pour l'Algérie, mais ici en Afrique noire, il y a encore la place. Les forêts sont là, les espaces sont là. Mais il y a un problème du rapport développement, ou plutôt richesse et population. Richesse et population et un déséquilibre qui ne s'explique pas, mais qui en même temps s'explique parce que y a des pratiques aussi culturelles hein, de polygamie qu'on ne veut pas affronter, mais peut-on les affronter? C'est une bonne question. Et il y a, comment dirais-je, oh, tout un environnement à créer qui fait que par lui-même, les naissances doivent pouvoir se réguler. Nous avons ici au Cameroun un peuple qui s'appelle le peuple Bassa, qui voilà, ne fait presque plus d'enfants. Comme ça, rien n'a été fait. C'est pas parce que les parents peuvent pas. Mais je sais pas, automatiquement, de toutes les tribus qu'il y a au Cameroun, les Bassa sont ceux qui font le moins d'enfants. Allez comprendre comment ça se fait. Alors, est-ce que on peut, dans un contexte, je veux dire, comme ça, d'humanité, dire qu'on va fixer, comme en Chine, le nombre d'enfants à ne pas faire ou à faire? C'est difficile, cette question de la surpopulation. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans une incompétence fondamentale sur le développement urbain, dans une incompétence fondamentale sur la spécialisation, dans une incompétence fondamentale sur tout ce qui a été dit auparavant, il y aura un effet d'optique qui fera que forcément, on aura l'impression qu'il y a trop d'Africains parce que bah, il y en a trop qui vivent le chômage, il y en a trop qui vivent dans des conditions d'insalubrité, il y en a trop qui vivent à la limite des conditions qu'on peut espérer pour l'humanité. Et tous ces rapports-là, qui va aider l'Afrique? Mais personne. Personne ne va aider l'Afrique, elle va se débrouiller toute seule. L'Algérie va peut-être exploser ou pas exploser, mais en même temps, comme nous entrons dans un système de verrouillage total des libertés et des initiatives, on va pas être pessimiste, on va pas non plus être optimiste, on va laisser la question en suspens et puis se dire. Ben, l'Afrique se démerdera très bien et trouvera son chemin, je ne sais pas comment. D'un point de vue plus intéressant, parce que les questions africaines sont toujours alambiquées, ça fait perdre son latin. D'un point de vue plus intéressant, donc c'est du côté de la Californie, où le gouverneur Gavin Newsom a fait un de ses discours, mais alors incroyable. Incroyable parce que vous savez, enfin, vous savez, moi j'ai appris là que la loi californienne fixe à 1500 voix le nombre de citoyens qui peuvent réclamer que l'élection se rejoue, c'est-à-dire qu'ils peuvent manifester leur mécontentement contre leur gouverneur et demander à ce que on refasse l'élection de façon à ce qu'on vote quoi. Voilà, la démocratie directe à la Suisse. Et il y a eu 2000, 2000 citoyens, enfin 2000, ce n'est pas 2000, ça doit être, je sais plus les chiffres en tête là. Ce n'est pas 2000, mais bien sûr, c'est 2 millions, c'est-à-dire 500 000 de plus que ce qui est requis, qui demande, qui nécessite donc, puisque ça se soit exprimé, qu'on puisse passer à la revotation pour savoir si on conserve ce gouverneur ou pas. Alors, le discours du gouverneur est absolument, comment je vais dire, hallucinant, parce qu'il dit, il répond donc à ses concitoyens, il a fait un discours, hein, après qu'on lui ait présenté les 2 millions de votes qui demandent à ce qu'on refasse, enfin les 2 millions de suffrages qui contestent sa gouvernance. Alors, il dit oui. Je reconnais que nous avons fait des erreurs, mais sachez que, vous savez, nous avons compris, hein, je vous ai compris, pardon, de Gaulle. Il y a eu des erreurs dans la gestion, j'ai fait des erreurs, nous avons appris, nous allons cesser, ou plutôt d'en faire, enfin, nous n'allons pas cesser de nous améliorer. Mais ceci étant, n'écoutez pas mes opposants parce que eux, ils ont un autre agenda politique qui sous-estime la grandeur de la Californie. Enfin, ce qui fait la grandeur de la Californie. Et moi, je vous dis, par exemple, là, il fait son bilan, hein, les chiffres du coronavirus s'améliorent. Nous, comment dirais-je, comment il dit ça? Nous allons engager une campagne de vaccination et dans cette campagne, nous allons prévoir faire des vaccinations équitables, c'est-à-dire qu'il y aura des doses pour les minorités, vous vous rendez compte? Il parle des émissions, nous allons ramener les émissions, vous savez, la climatique à zéro, voilà, à l'horizon 2035, et ça va aider pour le changement climatique. Nous allons ouvrir les écoles bientôt, bien sûr, le shutdown, c'est pas bien. Vous savez, il peut pas avoir de redressement économique sans justice économique, c'est toujours lui qui parle. Il y a des disparités que nous allons régler parce qu'elles sont inacceptables. Entre-temps, l'État a beaucoup de sans-abri. En gros, il revient, en dis il termine en disant la Californie a un surplus budgétaire, malgré tout ce qu'on peut dire, de 15 milliards de dollars. Donc, c'est promoteur parce que ça fait que nous allons revenir, non pas en rampant, mais en rugissant. Waouh! Vous voyez, ça, c'est le discours qu'un politicien vous fait aujourd'hui. Je fais le parallèle avec, enfin, pas le parallèle avec l'Algérie, parce que c'est vraiment ce type de discours qui font que les populations, les peuples, se disent que les politiques nous prennent vraiment pour des cons. Voilà, vous avez un gouverneur à qui on demande de remettre son mandat en jeu et qui vient, pour reconnaître ses erreurs, vous présenter un programme qui consiste justement à ce qu'il n'a pas fait et qui dit qu'il fera. C'est quand même très fort, alors que ce n'est même pas la question. C'est la question, comme en Algérie, c'est la question de la Silicon Valley. Comment se fait-il, là, si on est dans la redistribution des richesses, alors pour le coup, clairement, comment se fait-il que la Silicon Valley, parce que les 15 milliards de surplus, ça vient de la Silicon Valley, ça vient du Big Tech, ça vient du Big Money. Et comment se fait-il que ces gens-là s'enrichissent comme ça et les autres souffrent? Comment se fait-il qu'il y ait des shutdowns? L'Amérique, culturellement, n'a pas besoin de ces chèques-aides et tout. Elle veut travailler. Alors, quand la Silicon Valley travaille, les autres ne travaillent pas, il y a un problème. Et quand, en plus, la Silicon Valley traque des citoyens, il y a un problème. Et quand, en plus, elle se permet, comme on a vu ces derniers temps avec Facebook et consorts, de vouloir jouer les censeurs pour supprimer la liberté d'expression. Voilà les choses qui énervent et ces choses-là, le gouverneur Gavin Newsom n'en a jamais parlé, il n'a même pas évoqué, il n'a rien dit du tout. Et nous avons cette politique aujourd'hui qui nous laisse pantois. On n'a pas de mots pour qualifier cela. On subit ça. Bon, vraiment. Ah, il y aura des élections en Californie, je ne sais pas quand, pour désigner le nouveau gouverneur. On ne sait pas si celui-ci restera ou pas, mais on verra bien. Sinon, on va en terminer sur la question des politiques qui prennent les peuples pour des gogos. C'est New York, le gouverneur, lui aussi là-bas, Cuomo. Pendant, vous savez, pendant au plus fort de l'épisode du Covid, le Cuomo, il était tous les jours en conférence de presse tête à tête, à distance, avec New York, Washington, avec le président Trump. Et il a tellement bien joué son rôle qu'on lui a prédit des awards, et un livre qui devait sortir. Et puis, enfin, c'est lui en fait. Si Monsieur Biden est président aujourd'hui, vraiment, il le doit beaucoup au gouverneur Cuomo. Et tout d'un coup, patatras, qui sont l'accuse, oui, il a menti sur les chiffres des décédés, des morts en maison de retraite. Non seulement il a menti, mais il y a une magouille, il a fait bloquer les chiffres, la diffusion des chiffres. Puis les femmes arrivent, les filles arrivent, les unes après les autres, harcèlement sexuel et tout ça. Ou les démocrates arrivent, oui, il faut, vous savez, à un moment donné, il faut sacrifier quelqu'un, la dimension sacrificielle. Quand on ne peut plus rien faire, on sacrifie quelqu'un. On sacrifie un frère et il fallait le sacrifier, oui, ils sont sortis les démocrates, oui, il faut qu'il démissionne, il doit partir, le gouverneur, etc., etc., etc. Ça aussi, c'est du grand foutage de gueule. Amis des Radio Silence, c'était quoi? Une revue de presse, on va dire comme ça. C'est ce que je peux vous faire dans mon état aujourd'hui. Je suis Elise Bock, vous avez écouté Flash sur le monde et je vous dis à bientôt.